Je le disais il y a un instant, nous y étions hier soir à la Nuit Blanche, notamment à Paris, mais ça a lieu aussi dans plusieurs villes de France et à travers le monde. Zoé Sfez, la Nuit Blanche qui évolue, qui continue, elle était notamment organisée, comment dire, curatée.
Curatée, même si le mot n'est jamais très heureux, par Didier Fusillé.
Par Didier Fusillé. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade sur l'évolution de cette manifestation culturelle?
Alors, c'était une année à la fois particulière et pas si particulière. C'était la 18e édition de cette Nuit Blanche et c'était la dernière du mandat d'Anne Hidalgo, de ce mandat qui va se terminer. C'était aussi un moment de regarder, un bon moment pour regarder ce qu'est devenu cette Nuit Blanche. Pourquoi déjà? Parce qu'évidemment, c'est son prédécesseur Bertrand Delanoë qui l'a instauré. Donc, en fait, c'est la dernière, on va dire, ère Delanoë Hidalgo, la dernière année de cette fameuse ère de Hidalgo. Le concept a beaucoup évolué. Il a 18 ans, il est presque majeur, comme un enfant, hein, on pourrait le dire.
Il vient de passer son permis de conduire sur le périphérique.
Il a le droit de voter. Alors, c'était une année où Anne Hidalgo, qui avait déjà annoncé, qui avait déjà voulu en 2018 sortir la Nuit Blanche de Paris proprement, et qui avait envie d'investir la question du périphérique. Alors là, on est sur une double thématique cette année. Il y avait la thématique du périphérique, on se le réapproprie. C'est pas complètement anodin quand on a quand même des candidats au projet municipal comme Gaspard Ganzer, par exemple, qui propose d'annuler le périphérique. Il y avait un petit
côté de le supprimer, en tout cas de
ne plus en faire un périphérique. Donc là, il y avait en l'occurrence ce qu'ils appelaient le vélodrome, c'est-à-dire l'idée de pouvoir avoir des cyclistes. Il y a eu un énorme embouteillage, ça a beaucoup plu.
Il y avait des cyclistes, mais on ne pouvait pas y rentrer. J'ai testé en trottinette qui était interdite. Les vélos étaient autorisés. Évidemment, il y avait des bouchons partout.
Alors, il y avait des bouchons partout. Ça, c'est un autre débat qu'on peut peut-être aborder après, mais c'est vrai que c'est paradoxal de faire une. C'est toujours le paradoxe de faire une Nuit Blanche sur le mouvement tout en paradoxalement bloquant tout Paris. C'est un peu ce qui s'est passé hier et ce qui se passe à quasiment toutes les éditions, mais particulièrement hier. Il y avait aussi un parcours de running. Vous savez que le running est très à la mode. La France et les Parisiens aiment le marathon. Donc là, il y avait un parcours de running avec des espaces artistiques qu'on peut visiter. Et il y avait, comme toujours, ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire 5 centres, on va dire, de programmation par la ville, dans le centre, dans l'ouest, dans le nord, etc. C'est intéressant de regarder ce qui se passait auparavant, les premières éditions de la Nuit Blanche à Paris. C'était pas du tout ça. C'était 4 ou 5 grandes interventions dans l'espace public avec des grands artistes, des Anish Kapoor, des hélicoptères qui survolent, des ponts emmaillotés, le pont des Affres en 2016, qui était le pont des Arts, où on avait des éclairages très particuliers. Donc, on va dire que les premières Nuits Blanches, il y a 18 ans, effectivement, 2002, je crois, on était sur des gestes artistiques très forts qui transformaient le regard sur la ville. On se rappelle que la première édition a été un succès, en même temps victime de son succès parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas voir grand chose. Là, on est un peu tombé dans l'excès inverse, c'est-à-dire que entre la programmation de la ville, la programmation off des grandes institutions culturelles qui dépendent ou pas de la ville, la programmation des lieux privés qui est gratuite en début de soirée puis qui devient payante, c'était le cas à la Rotonde à Jaurès, où vous aviez un début de soirée électro gratuit, puis à minuit, ça devenait payant. Il y a un problème de lecture, quand même, sur cette Nuit Blanche, comme toujours. C'est-à-dire qu'il y a une telle offre d'offres que ça devient compliqué de se repérer. Il y a eu quand même l'entrée d'un nouvel acteur, qui est un acteur éminent de la ville, la Philharmonie de Paris. On sait qu'Anne Hidalgo s'est suffisamment plaint d'avoir payé la note très salée de cet endroit, où là, pour le coup, il y avait une proposition très intéressante, un marathon musical qui a duré toute la nuit, avec un savoir-faire très important. Il y a vraiment, cette année, comme les 5-6 dernières années, à boire et à manger, et c'est très compliqué de comprendre quels sont les temps forts de cette Nuit Blanche. Il n'empêche que ça reste, on va dire, et c'est affreux, une marque que d'ailleurs la ville a vendue à d'autres villes, hein, en France, en Europe, en Chine. Et ça reste, on dirait, un point de repère encore plus fort peut-être pour les gens qui ne vivent pas à Paris, qui sont venus à la fois pour voir l'œuvre de James Coon, dont on va parler juste après, et aussi pour voir cette Nuit Blanche. Donc il y a toujours une offre, il y a toujours un public qui est assez partisan, mais c'est vrai que la lecture de l'événement lui-même, de la programmation, devient de plus en plus compliquée. Alors ça reste quand même un assez franc succès. Vous étiez à la Gaieté Lyrique, vous ne pouviez pas rentrer. Moi, j'ai fait la queue à la Philharmonie pendant deux heures.
Si, je pouvais rentrer, mais la queue est très longue.
Voilà.
L'électro-expérimental.
Voilà. Non, mais force est de constater que d'une part, le public est toujours friand. Est-ce qu'il y comprend grand chose? Je suis pas sûre. Il y a toujours des modérateurs qui essayent de faire en sorte. Ça reste quand même un beau moment. Ça reste un moyen de voir la ville sous d'autres aspects. Moi, ça m'intéresse effectivement d'essayer de voir comment la Nuit Blanche post de la Noé post-Anne Hidalgo arrivera ou pas à se réinventer. Mais ça, ce sera l'année prochaine.
Avec des choses intéressantes, notamment, je citais le troisième paradis de l'artiste Michelangelo Pistolito, qui est arrivé en retard parce qu'il était lui-même pris dans les bouchons, comme Anne Hidalgo elle-même, qui n'arrivait pas à avancer avec sa voiture. Ouais. Et puis, il y avait un spectacle, donc, je l'ai dit, d'électronique expérimentale à gaieté lyrique, ou encore un spectacle sur les sons, assez intéressant, à l'église protestante unie de la rue des Archives. Voilà pour ce survol, si on peut dire.
Très gros, léger survol, parce qu'il y avait effectivement plus de 3000 artistes programmés, encore une fois.
Un carnaval sur la rue de Rivoli.
Oui, il y a eu une très belle parade. On était plutôt sur une nuit blanche carnaval, donc printanière, que sur l'automne. Il y a eu un défilé de chars. Il y a eu effectivement les éléments repris du spectacle de parade. Donc il y a eu vraiment, comme toujours, une offre très importante sur le thème du mouvement, peut-être trop importante, qui fait qu'en plus, on a toujours cette frustration de ne pas avoir été au bon endroit.
Et puis Didier Fusilier, qui était donc le curateur de cette nuit blanche, multiplie aussi ses initiatives autour des microfolies qu'il avait contribué à inventer au parc de la Villette, et qu'il a notamment qu'il souhaite développer depuis les annonces qui ont été faites avant l'été par le gouvernement un peu partout en France. Certaines ont été créées sur ça, les microfolies.
Les microfolies, c'est ce concept. Alors si on est honnête, que le ministre de la Culture, déjà sous Françoise Nyssen, puis ça a été repris par Franck Riester, a décidé finalement de définir comme priorité du quinquennat, comme démocratisation de la culture.
Avec le pass culture.
Voilà. Avec le pass culture, donc on n'en avait pas entendu parler pendant la campagne, mais finalement décide de s'en saisir. Donc en 2018, enfin à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, on avait eu l'objectif de 200 folies, et là, début juin, le gouvernement avait dit qu'il voulait 1000 microfolies d'ici 2022, donc il y en a qui, la première a été installée, c'était fin 2017 à Sevran-Bedotte, et l'idée c'est d'en ouvrir le maximum possible dans des endroits dits éloignés de la culture. Donc c'est ce fameux terme de tiers-lieu, le lieu qui n'est à la fois ni un lieu d'institution, ni un lieu totalement public, ni un lieu privé, un lieu ouvert.
Voilà. Avec des reproductions d'œuvres.
Avec des reproductions d'œuvres, c'est ça l'idée.
Le débat.
En fait, de dire on va avoir des œuvres et puis on va avoir des reproductions d'œuvres. Donc vous pourrez voir un petit Van Gogh à côté de chez vous, mais c'est surtout un Picasso. Donc l'idée étant d'aller voir les gens, mais pas avec les vraies œuvres. Donc ça reste un vrai débat. Est-ce que l'expérience esthétique, c'est du confort fort près de chez soi, et surtout avec la vraie question de l'opportunité de cette démarche, alors même que, et on l'a vu à la présentation du budget du ministère de la Culture, qui a augmenté sur pas mal de crédits, mais sur ce qu'on appelle l'EAC, c'est-à-dire l'éducation à la culture, les crédits ont nettement diminué cette année. Donc voilà, paradoxe comme toujours chez la politique culturelle d'Emmanuel Macron.
On recevra d'ailleurs dans cette émission Soft Power Didier Fusilier dans quelques semaines pour en parler avec lui. Autre sujet d'actualité cette semaine, c'était vendredi matin l'inauguration du bouquet de tulipes de Jeff Koons tout près du musée du Petit Palais OSS.
Ah oui, mais vous y étiez aussi, Frédéric Martel ?
J'étais pas vendredi matin, mais je suis passé samedi.
Vous êtes passé, vous allez nous raconter ce que vous en avez vu. Alors, petit rappel sur ce bouquet de tulipes, je pense qu'il est important de rappeler ce long feuilleton. Donc, bouquet de tulipes, c'est l'artiste américain Jeff Koons, qu'on ne présente quasiment plus, qui, au lendemain des attentats de 2015, avait annoncé qu'il comptait offrir à la ville de Paris cette œuvre, un bouquet de tulipes, qu'il dit donc inspiré à la fois du bouquet de l'amitié et de la femme au vase de Picasso, tout en faisant des espèces de références aux fleurs de Monet, de Manet, de Fragonard. Donc en s'inscrivant, malgré toujours ces gestes artistiques très pop et très industriels, dans une longue lignée de peintres français. Alors l'œuvre, on l'a vu, pour vous en parler, c'est une œuvre monumentale. Moi, j'ai été assez surprise de sa taille. J'avais complètement sous-estimé ça. 13 mètres de haut, 60 tonnes d'acier avec un socle. Le coût de l'œuvre, 3,5 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce bouquet de tulipes? Au moment où cette annonce a lieu, Jeff Koons annonce aussi que cette œuvre sera un cadeau financé par des mécènes. Pendant très longtemps, on n'a pas eu le nom de ces mécènes, mais on sait par exemple que Xavier Niel a contribué, puis des mécènes américains, et que c'était à la fois pour rendre victime aux hommages des attentats du Bataclan, mais aussi pour célébrer l'amitié franco-américaine. Donc deux buts un peu complexes à croiser, et dit-il, alors c'était ça, le moment...
Hommage aux victimes.
Oui. Hommage aux victimes, mais... pour être installé entre le palais de Tokyo, qui est donc sur le bord de la Seine et dans la lignée de la perspective où on a la tour Eiffel, et le Grand Palais. Là, branle-bas de combat, chez les spécialistes de l'art qui signent une tribune à l'époque, des galeristes qui globalement s'étonnent d'une part de cet objet et d'autre part de la manière dont ce cadeau finalement s'impose, y compris Bruno Julliard. Bruno Julliard est alors dans l'équipe d'Anne Hidalgo, c'est le premier adjoint en charge de la culture et lui refuse que cette œuvre soit installée. Il y a eu tout un espèce de débat politique et c'est Jean-Jacques Ariagon que nous recevions hier qui finalement se fait l'ambassadeur et se fait le défenseur de cette œuvre. Et c'est Christophe Girard qui remplace Bruno Julliard à la culture à la mairie de Paris qui trouve un endroit pour cette sculpture. Cet endroit, c'est un endroit qui effectivement n'est pas très très utilisé par les touristes. C'est donc entre la place de la Concorde et le Petit Palais, ce qu'on appelle le cours de la Reine. C'est un jardin municipal où il se passe effectivement pas grand chose, puisqu'il est coincé entre deux endroits du Triangle d'Or où il y a beaucoup de passages, qui est pas très évident à trouver. On ne le voit pas directement de la Tour Eiffel, on ne le voit pas des Champs-Élysées. Voilà. Donc, il a été installé là. Il aurait pu être installé à la Villette, mais Jeff Koons a refusé qu'il soit installé à la Villette, en grande partie, tout simplement parce qu'il considérait, eh bien, qu'il n'y avait pas assez de touristes à la Villette et que les touristes américains ne verraient pas son œuvre. Encore aujourd'hui, il y a énormément de contestations sur l'existence même de cette œuvre. Le philosophe Yves Michaud alors, dénonce une esthétique compliquée en disant qu'il s'agit d'un bouquet de tulipes, puisque ces tulipes ressemblent selon lui à des anus. Mais c'est vrai que la question politique, tout simplement, de savoir si l'espace public parisien peut ou doit être occupé par une œuvre financée par du mécénat privé, avec un artiste que finalement ni l'État ni les Parisiens n'ont choisi, et ça, ça a été probablement la réaction la plus violente, les associations de victimes qui n'ont jamais été contactées par l'artiste et qui le regrettaient vendredi dernier en disant qu'il n'avait même pas été convié à la cérémonie d'ouverture et qu'ils auraient volontiers joui de l'argent récolté pour la mise sur pied de cette sculpture pour leur association qui, elle, manque d'argent tous les ans depuis 2015. Voilà. Donc, au-delà des qualités esthétiques ou pas de cette œuvre, que je vous invite à aller voir, effectivement, il y a énormément de monde encore aujourd'hui, trois jours après.
C'est frappant, ouais.
Avec des gens qui adorent détester et des gens qui adorent adorer, notamment une foule de touristes américains qui se réjouit finalement vraiment de l'existence de cette œuvre. La question politique, je pense, reste entière et crée un précédent. Je discutais avec un passant français qui disait, mais en même temps, avec le 1% artistique, on a vu fleurir sur toutes les places de France des œuvres, pas forcément d'artistes français, à l'esthétique qu'à l'époque on jugeait parfois déplorable. Et c'était nous qui les payons et ça ne nous dérangeait pas tant que ça. Voilà. Voilà, moi, faites-vous votre
ça
propre
fleurit et c'est un bouquet de fleurs, donc tout va bien.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.